Fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 9. Le tribunal. Le matin du 17 février, Marjorie quitta son cachot pour comparaître devant ses juges. Lord Marnell, qui depuis quelque temps témoignait beaucoup de bonté à sa femme, comme s'il désirait par là racheter le mal qu'il avait déchaîné, l'aida à entrer dans sa litière et chevaucha à ses côtés. La salle du conseil était tendue de draps rouges et les bancs réservés aux spectateurs gorgés de monde. Marjorie eut un mouvement de recul à la vue de tous ces visages étrangers et ses joues pâles se colorèrent légèrement tandis que Lord Marnell la conduisait à sa place. Arundel, archevêque de Canterbury, occupait le siège du président. Il avait l'abbé Dilson à sa gauche. Plusieurs abbés, des prieurs et des dignitaires, séculiers ou ecclésiastiques, composaient le reste du tribunal. Durant 8 mortelles heures, ils interrogèrent l'accusé, et, avec un courage et une intrépidité héroïque, elle répondit à toutes leurs questions. Maître Simon intervint à 2 reprises, pour demander un peu de repos, pour ses malades, et il exigea qu'on lui fît prendre une gorgée de vin pour la soutenir. L'abbé Dilson se montra enfin sous son aspect véritable. Ce n'était plus le prêtre doux et persuasif, mais le persécuteur sans pitié. L'archevêque harcelait la prisonnière de questions, et s'efforçait de la prendre en défaut. On lui demanda, entre autres choses, si elle croyait que dans le sacrement de la scène, le pain et le vin devinssent réellement le corps, et le sang de Christ. Certes non, répondit Marjorie. Christ, étant vivant ici-bas, ne pouvait donner son corps à manger à ses disciples, car il n'aurait pas été alors un corps humain. De plus, si le pain avait été véritablement le corps de Christ, il n'aurait pas mangé sa propre chair. Cela est contraire à toute raison. Les mystères de la foi sont au-dessus de la raison, dit Arundel. Cela est vrai, mon père, bien au-dessus de la raison, mais non pas contraire à cette raison. Croyez-vous au purgatoire? L'Église enseigne qu'il existe, et je ne dis pas que cela soit faux, mais je n'en trouve aucune mention dans mon livre. Priez-vous la Sainte Vierge, les saints anges et les saints? Non. Cela n'est pas dans le livre. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, dit Christ, mais il n'est jamais dit, ce que vous demanderez à Saint-Michel ou à Sainte-Anne. Estimez-vous que la confession soit une chose bonne ou mauvaise? Elle peut être bonne, je n'en sais rien, mais il n'en est pas parlé dans mon livre. Je vous en prie, révérend Père, si dans quelque autre partie de la parole de Dieu, il est parlé de ces choses, faites-le-moi voir, et je le croirai, mais pas avant. Vers la fin de la journée, l'archevêque et les abbés se consultèrent un moment à voix basse, puis Arundel se tourna vers la prisonnière. Marjorie Marnell, baronne Marnell de Lymington, la cour vous demande si vous consentez à signer cet écrit, et à accepter les choses qu'il contient. Laissez-moi le lire, monseigneur, et je vous répondrai ensuite. Arundel n'avait nulle envie qu'elle lût le parchemin, mais Marjorie refusa avec énergie de signer quoi que ce soit sans en avoir pris connaissance. À la fin, on lui fit la lecture du document. Il contenait la promesse d'abjurer les doctrines des Lollards et d'accomplir une pénitence sévère afin d'expier le scandale qu'elle avait causé dans l'église. Marjorie refusant avec fermeté de signer, l'archevêque l'avertit qu'elle s'exposait ainsi à subir la peine capitale. « Vous pouvez me condamner à ce que vous voulez, » dit-elle, et sa voix bien que faible était encore claire et distincte. « Je ne vous crains pas. Je sais que vous avez le pouvoir de détruire mon corps, mais vous n'aurez jamais celui de toucher à mon âme. Elle est à Christ, et c'est entre ses mains, et non entre les vôtres que je remets mon corps et mon esprit. » L'archevêque lut alors la sentence du tribunal, la cour ayant trouvé Marjorie, baronne Marnell de Lymington, coupable de tous les crimes dont elle est accusée, la condamne à être brûlée vive, au lieu appelé Teville, le 6 mars prochain. La prisonnière baissa la tête, puis se leva et calmement sortit de la salle, escortée par son mari. Après que Lord Marnell l'eut étendue sur son lit dans le cachot, il ne put empêcher sa rage de s'exhaler. « Ah ! » fit-il en serrant les poings, « si je vous tenais ici, abbé Dilson, vous lui pardonneriez, Seigneur ?» dit Marjorie d'une voix éteinte. « Qui ? Moi ? Lui pardonner ? Quelle femme vous êtes, Madge ? Non, en vérité, je lui romprai tous les os. Sur ma foi, Madge, ces deux coquins m'ont joué, et sont allés loin au-delà de mes intentions. J'aurai de la peine à vous tirer de là, mais je vais faire tous mes efforts pour vous sauver. Vous savez que je ne suis pas en faveur, auprès du nouveau roi comme auprès de Richard II, dont Dieu est l'âme. Marjorie, voulez-vous me pardonner ? De grand cœur, Seigneur. Je savais que vous ne vouliez pas tout ce qui est arrivé. Et je vous supplie, Ne vous tourmentez pas en pensant que vous êtes la cause de ma mort, car je vous pardonne comme Christ m'a pardonné. Madge, je ne puis vous comprendre. D'où vient que vous êtes calme et paisible avec la mort qui vous menace? Christ est avec moi, et où Christ se trouve, tout est paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Jean 14h27, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez bon courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33, en quittant la prison, ce soir-là. Lord Marnell se rendit à la cour. Depuis que Richard II avait été détrôné, il n'y avait pas remis les pieds. Mais il voulait tout tenter pour sauver sa femme. Après main pour parler, il fut admis en la présence du roi Henri, mais lorsque celui-ci comprit qu'on lui demandait la grâce d'une hérétique, il s'écria « Jamais je n'accorderai de pardon à un Lollard !» Et il tourna le dos à Lord Marnell. Celui-ci aurait donné toute sa fortune pour détruire son « œuvre des derniers 18 mois ». Il n'avait jamais songé que la Bédisson en appellerait à l'archevêque, ni que Marjorie résisterait aussi fermement. Il ne la connaissait que comme une jeune femme frêle et soumise, et ne s'attendait pas à trouver en elle l'étoffe d'une héroïne et d'une martyre. Il s'adressa encore successivement au prince de Galles et aux autres hauts dignitaires de la cour, les suppliant d'intercéder auprès de leur père, mais les uns avaient peur de se compromettre, les autres, animés de sentiments de haine contre les hérétiques, ne voulaient rien faire. La reine elle-même semblait terrorisée et craignait pour sa propre sécurité. Malgré tous ses échecs, Lord Marnell ne se lassait pas. Il représenta encore au roi que Marjorie était jeune et inexpérimentée, que lors de son arrestation, la peine capitale n'était pas encore en vigueur contre les Lollards, tout fut inutile, Henri demeura inexorable, et Bilson qui le travaillait en secret, n'était pas étranger à tant de rigueur. Le 26 février, Alice Jordan avait été à Marnell House, et lorsqu'elle revint à la prison, Marjorie vit tout de suite que quelque chose l'avait bouleversée, et lui demanda ce qui se passait. « Vous souvenez-vous, noble dame, du jour où vous êtes allée à Bostock avec Messire Pinson pour entendre un sermon ? Comment l'oublierai-je ? Ce fut Maître Sastre qui prêcha, n'est-il pas vrai ? Oui, sans doute, pourquoi ces questions, noble dame, il a été brûlé vif ce matin ? Maître Sastre. Qui te l'a dit ? Christophe me l'a raconté. Et cet homme de malheur, l'abbé Dilson, car bien qu'il soit prêtre, c'est un mauvais homme, assistait au supplice, et pressait Maître Sastre de confesser ses erreurs. Mais Maître Sastre est resté ferme jusqu'à la fin. Marjorie détourna la tête. La figure vénérable de Sastre, alors qu'il se penchait vers l'assistance à Bostock, était vivante devant elle. « Cher vieux maître, murmura-t-elle, vous n'aurez pas à chercher longtemps parmi la multitude céleste, pour y trouver un des visages tournés vers vous dans la chapelle de Bostock.